Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et on fait le tour un petit peu de ce qui buzz sur les réseaux sociaux à 8h43 et surtout dans la presse avec la revue de presse de Benjamin Glaise.
Oui Benjamin, on commence par la crise sanitaire et l'angoisse de la deuxième vague.
Ah oui, c'est à la une du Parisien aujourd'hui en France avec un reportage au cœur d'un service de réanimation. Dans cette unité, on n'avait plus vu autant de patients depuis le 21 mars dernier. Les soignants disent redouter la submersion, mais le Parisien nuance. Non seulement la maladie est mieux connue, mais aussi le taux de mortalité moins élevé qu'il y a 6 mois. En tout cas, un mot est lâché ce matin, du reconfinement local en l'occurrence. C'est à la une de la Dépêche du Midi. Mmh. Emmanuel Macron qui prendra la parole demain à la télévision avec cette question. Est-ce qu'il annoncera des reconfinements locaux? Selon la Dépêche, en tout cas, le Premier ministre n'exclut pas une telle décision. Et puis en attendant, pas de reconfinement, mais du rouge écarlate à Montpellier qui tourne au ralenti. Oui. C'est ce que nous raconte Midi Libre ce matin avec en photo des parasols refermés au-dessus d'une terrasse vide. Les mesures ont été annoncées par le préfet hier et elles freinent la vie économique, nous dit-on, et sociale de 38 communes. Et ce, pour les 15 jours à venir.
Oui, c'est ça. Alors que les vacances de la Toussaint arrivent, la Provence qui fait de son côté, qui est au chevet justement du secteur du tourisme.
Oui, avec cette question à l'inconnu des vacances, pour ces vacances qui commencent donc vendredi dans la Provence, eh bien, le secrétaire d'État au tourisme invite les Français à en profiter de ces vacances malgré le contexte sanitaire et les rumeurs tantôt de reconfinement local, tantôt de couvre-feu. En tout cas, après avoir été placé en zone rouge, eh bien, la région PACA est loin de remplir ses gîtes et ses hôtels. Elle lance donc une campagne de pub qui vante les atouts de la Provence. En tout cas, la crise a boosté néanmoins le vélo et ça se confirme, comme indique La Montagne ce matin avec ce dossier intitulé « La folie du vélo ». La demande était déjà forte depuis 2 ans et à Clermont, les entreprises doivent faire face à des difficultés de production et des ruptures de stock au niveau des pièces. Les clubs de vélo eux-mêmes constatent depuis septembre un intérêt croissant pour la discipline.
Ah oui, absolument. Alors, puisqu'on parle de vacances, vous l'avez évoqué, on va du côté de l'Indépendant avec Pierre Matisse, rédacteur en chef de l'Indépendant. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Parce que vous évoquez dans à la une ce matin, il y a le sauvetage dans le Canigou et puis il y a la fréquentation de la cité de Carcassonne notamment.
Oui, on a mis la main donc sur des chiffres de fréquentation de la cité, alors qu'ils sont des chiffres très fiables, puisqu'il y a des petits robots qui comptent les gens qui passent.
Ouais.
Et on s'est aperçu qu'en 3 ans, la cité a perdu beaucoup de visiteurs. Et c'était avant le Covid.
Pourquoi ?
Qui s'arrête à 2019. Et donc, la cité a perdu 364 000 visiteurs à peu près. Et donc, des explications, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas non plus énormément d'inquiétude de la part des professionnels du tourisme, mais il se trouve que ce qui inquiète aujourd'hui, c'est plus la situation sanitaire, évidemment.
Bien sûr.
Mais bon, aujourd'hui, à l'E4, il y a des assises de professionnels, hôteliers, restaurateurs, etc., qui s'interrogent justement comment s'adapter un petit peu à ce que vous disiez à propos de Clermont-Ferrand. Et bon, ce qu'explique cette personne, c'est qu'il faut travailler la qualité. La qualité et la clientèle locale.
Oui, c'est ça. Alors, juste d'un mot d'ailleurs sur... On en parlera probablement d'ici la fin de la semaine sur Sud Radio, mais c'est vrai sur les taux de réservation pour les vacances de la Toussaint. On nous dit quand même que dans les gîtes, finalement, il y a du monde. Ailleurs, dans les hôtels, c'est un petit peu plus contrasté. À la une aussi, le sauvetage dans le Canigou. Alors, de quoi s'agit-il ?
C'est un promeneur dimanche qui a fait une mauvaise chute, qui a pris un rocher. Il n'était plus en capacité de continuer sa randonnée. Il était bien équipé, il a pu donner sa position GPS, mais il n'était pas sorti d'affaire pour autant parce qu'il était à 2500 mètres d'altitude, à vent à 140 km/h, ce qui explique qu'on estimait le ressenti à moins 20 degrés. Et donc on rapporte l'épopée un petit peu des sauveteurs qui en hélicoptère et en voiture se sont approchés au plus près, on le rejoint à pied, puis finalement on passait la nuit dans un refuge avec le randonneur blessé avant de pouvoir l'évacuer au matin. Donc un exploit physique et humain sur la montagne du Canigou.
Du Canigou. Bon, attention quand vous partez en randonnée. Un dernier mot avec Chantal Goya qui est en une aussi de l'année pendant...
Oui, Chantal Goya qui se produit à Narbonne. Alors bon, c'est d'autant plus intéressant que vous savez qu'à Narbonne, il y a une nouvelle salle de spectacle qui s'appelle l'Arena, et dont le lancement a été extrêmement perturbé par l'épidémie, comme évidemment tous ces lieux. Et il se trouve que Chantal Goya va pouvoir s'y produire pour la première. C'était un concert qui était programmé au mois de mars, qui va se dérouler le 24 octobre. Ouais. Et c'est d'autant plus important que finalement, c'est l'un des rares événements qui va pouvoir se tenir dans cette salle flambant neuve.
Bah oui, absolument. Merci à vous, Pierre Mathis. On continue notre petit déjeuner d'actualité, Cécile, avec nos éditorialistes. Hein.
Oui, il y a Alexis Poulain, il y a Elisabeth Lévy et Yves de Cardrel, et surtout vous, hein, vos appels 0826-300-300. On va revenir sur la crise sanitaire, sur la crise chez les policiers. Mmh. Et puis, si vous avez envie de nous parler de votre actu, vos coups de cœur et vos coups de gueule, et ben vous nous appelez.
Oui, absolument. Alors, peut-être avant de démarrer sur les policiers, sur la crise sanitaire, Alexis Poulain, vous avez le sentiment qu'on va aller vers ce couvre-feu là, localisé, hein, c'est un peu ça. C'est possible ça ou pas?
C'est possible, puisque c'est le cas en Allemagne. Hein, Berlin et je crois Düsseldorf sont deux villes qui ont un couvre-feu à 22h. Je crois que la Belgique aussi, fut un temps, avait mis en place cette mesure-là. Donc ce serait tout à fait possible. Vous savez, à chaque fois, avant une prise de parole présidentielle, on a toujours les pires scénarios qui sortent un peu, c'est comme vrai. Ça. Histoire de se rassurer, une fois qu'il prend la parole, en disant « Ah ouf, on a échappé au pire ». Donc peut-être demain, on ne va pas échapper au pire, ceci dit. Avec un couvre-feu, c'est déjà quand même catastrophique ce qui se passe pour les cafetiers, hein, et les bars. Aujourd'hui, il y avait les responsables de boîtes de nuit qui étaient en colère aussi dans les régions. Je ne vois pas comment on va s'en sortir avec ce manque de planification, ce manque de vision stratégique du gouvernement. La rentrée a été une catastrophe d'impréparation, notamment au niveau des écoles, des facultés. On a vu des scènes incroyables, les transports.
Dans les écoles, en tout ce qui concerne le primaire, le secondaire, ça a plutôt bien marché quand même, globalement.
Vraiment pas, parce que si vous avez les échos des différents professeurs, c'était un peu taisez-vous, ne dites pas qu'il y a des cas de Covid, il ne faudrait surtout pas fermer la classe, donc attendez les 3 cas pour fermer les classes, or quand vous avez un cas, vous savez que vous avez déjà toute une classe qu'à contact, quasiment. Donc c'est plutôt l'omerta qui prime, et qui fait qu'on n'a pas de visibilité, mais les parents sont pas dupes, le nombre de parents d'élèves qui ont dit, on est à peu près sûr de l'avoir ramené à la maison, c'était un peu alors soit c'était un pari, hein, de dire, bon, on va le virus est moins dangereux, laissons faire. Sauf que là, on arrive avec des nouveaux chiffres qui inquiètent les urgentistes et on les comprend. Ouais. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement a une stratégie ou est-ce qu'il navigue à vue ?
Yves de Cardrel, Elisabeth Lévy. Elisabeth, peut-être avant Yves ?
Oui. D'abord, moi je suis optimiste et j'ai constaté qu'Emmanuel Macron n'aimait pas jouer les mauvais flics. Hein, donc peut-être qu'il ne va pas annoncer, comme le dit Alexis, les pires nouvelles. Cette affaire de couvre-feu, c'est tout de même un peu curieux, parce que ça veut dire en gros, vous avez le droit de bosser, et puis pour le reste, vous êtes bien gentil et vous c'est mettre au boulot dodo, quoi, vous rentrez chez vous.
Non mais c'est pas faux ce que disait la ministre Emmanuel Wargon, qui était notre invité ce matin, il faut préserver l'emploi. L'économie, et puis pour le reste, on s'amusera par la suite.
D'accord. Quoi. Et l'emploi des gens dans les cafés,
l'emploi, l'économie. Attendez.
Et la vie s'arrête. Alors écoutez, il y a déjà 72% des gens qui étaient d'accord pour un nouveau confinement, je crois, dans un dernier sondage. Si c'est pour ça, là, vous allez avoir 95% des Français qui vont dire « Ah ben non, si c'est juste pour aller bosser, vous nous reconfinez, puis c'est tout ». Ça me paraît tout de même un peu drastique. Et surtout, c'est vrai, si vous voulez, on a déjà eu cette première vague, on a l'impression d'aborder celle qu'on vit actuellement exactement dans le même état. Donc c'est vrai qu'on se demande un petit peu, ce qui se passe. Voilà. Je suis pas sûr qu'ils iront jusqu'au couvre-feu, ne serait-ce que parce que personne ne va aller au restaurant. Si vous voulez, c'est autant fermer les restaurants. D'ailleurs, ils fermeront. Ils n'ouvriront pas pour fermer à 22h.
Yves de Cardrel, impréparation, dit Alexis Poulain du gouvernement, c'est sévère ou pas?
Je pense que c'est le mot est même faible.
Ah bon, d'accord.
Non mais il faut bien se rendre compte que le gouvernement, il y a des conseils de défense qui sont maintenant complètement consacrés à cette crise sanitaire. Au lieu de parler de Barkhane, on parle de cette crise sanitaire. Et le but du gouvernement, c'est d'endiguer l'épidémie, mais le but principal, c'est pas ça. Le but principal, c'est que les hôpitaux ne soient pas engorgés, parce qu'on a des hôpitaux qui sont des hôpitaux d'un pays d'un pays en voie de sous-développement. On avait 15 000 lits de réanimation il y a 8 ans, on n'en a plus que 5 000. On gère en fonction de nos capacités hospitalières. On ne gère pas en fonction de l'épidémie en elle-même. Et d'ailleurs, quand Olivier Véran nous montre ses graphiques à la télévision, il nous montre bien le moment où on sature, où les hôpitaux sont saturés.
Oui. Alors, quand même, on avait un professeur des urgences, le patron des urgences de Haute-Garonne, là, ce matin, à 8h10, avec nous, vous l'avez peut-être entendu, il disait qu'il avait quand même beaucoup d'appels de gens qui étaient complètement essoufflés et qui allaient terminer en réanimation, parce que c'était quand même assez grave, parce qu'ils ne prenaient pas leurs précautions, y compris parfois des jeunes, quand même.
Mais bien sûr, en Allemagne, tout ça, où le système hospitalier est resté de bonne qualité, où il y a suffisamment de lits de réanimation, on gère cela uniquement en fonction de l'intérêt des individus, de la bonne santé des individus.
Il y a quand même un couvre-feu, hein.
À Berlin,
dans certaines villes, oui.
Il y a des couvre-feux très localisés, très locaux. Ouais. Pour l'instant, le grand foyer européen, c'est la Belgique, où ça part dans tous les sens.
Ouais. C'est étonnant, Yves de Cadrel. La Belgique, depuis le début, ça flambe en fait beaucoup sur le coronavirus.
Parce que le problème, ça fait un an et demi qu'il n'y a pas de gouvernement en Belgique. D'y avoir un premier ministre qui vient d'être nommé. Par ailleurs, c'est un pays fédéral avec trois grandes régions où chaque ministre de la santé des trois régions fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est d'où le foutoir belge avec en Wallonie une explosion des cas qui touche le Luxembourg, qui maintenant contamine le Luxembourg, etc.
Mais voilà. Vous, Elisabeth Lévy, vous avez l'impression qu'il ne faudrait pas aller vers ce couvre-feu quand même, hein, si je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est plutôt mon sentiment. Maintenant, je ne suis pas épidémiologiste. Non, et au stade où on en est, effectivement, il faut éviter l'engorgement de nos services de réanimation. On peut se fonder que sur ces impressions, si vous voulez. Moi, j'ai un peu l'impression, depuis un certain temps, que il y a une sorte de catastrophisme, c'est-à-dire qu'on exagère ce qui est la gravité des choses. Mais peut-être que je me trompe complètement et que, en fait, c'est le biais cognitif. Vous savez, on croit ce qu'on a envie de croire. Mmh. Maintenant, le couvre-feu, si vous voulez, il faut se représenter ce que c'est. Ça veut vraiment dire les gens rentrent chez eux, ils peuvent même pas aller les uns chez les autres le soir, ou alors en se cachant, ou alors en découchant. Enfin, c'est quand même une drôle de vie. Vous allez dîner chez des... Comment ?
Non, mais c'est encore pire que ça au Québec, où la police a le droit de rentrer chez vous pour les fêtes, et en Grande-Bretagne, où il est recommandé de ne coucher qu'avec une personne qui habite à la même adresse que vous. On commence à rentrer dans des trucs c'est le problème, c'est tout le problème de cette dictature sanitaire qui pourrait s'installer, c'est d'aller jusqu'au plus intime. C'est-à-dire que chacun prenne soin des autres, c'est normal. En Chine, on va dire, c'est le modèle, ils ont réussi effectivement à réguler l'épidémie, mais regardez comment vivent les Chinois. C'est-à-dire que vous êtes rouge ouvert sur votre téléphone et vous avez le droit d'aller à 500 mètres ou 10 mètres. Je ne crois pas qu'on vit comme ça en France, donc c'est compliqué.
Et heureusement,
moi, je n'ai pas envie d'être...
Oui, mais alors, eux, ils sont parvenus à réguler.
Ce qui veut dire, pardon...
Certes, mais bon... Non. Ouais, à quel prix ?
Ce qui veut dire que malgré tout, on nous dit toujours la vie humaine n'a pas de prix, etc. Mais malgré tout, on fait tout le temps une sorte de calcul implicite entre les sacrifices qu'on est prêt à faire et les risques qu'on est prêt à courir. Si vous voulez, et effectivement, on n'est pas prêt à tous se claquemurer pendant des semaines, même pour arrêter l'épidémie, j'ai l'impression. On ne peut pas vivre. Je ne crois pas qu'on puisse imposer à la France ce type de mesures à la chinoise, mais puisque ça marche Québec, ça m'inquiète un peu.
Bah, c'est inquiétant.
Mais encore une fois, moi, je trouve que l'impéritie de l'État, on ne parle pas assez de cette impéritie de l'État. Je veux dire, on a eu le droit au Ségur de la santé, 8 milliards d'euros mis sur la table, et avec ça, qu'est-ce qu'on a ? On apprend ces derniers jours qu'il n'y a pas de gants dans les hôpitaux. Mmh. S'il n'était pas question de vie humaine, ce serait un sketch. Ouais, on n'avait pas de masque au mois de mars. Là, il n'y a pas de gants dans les hôpitaux. Ouais. Et on fait travailler des infirmières, on fait travailler des soignants qui ont le Covid. Mmh. Et en toute connaissance de cause.
Oui, et puis
c'est honteux. Ouais, c'est honteux de la part de l'État.
Il y a la campagne de vaccination contre la grippe et certains disent qu'on manquerait aussi de vaccins. Nous verrons ça, nous allons mener l'enquête. Dans un instant, on se retrouve et on va parler aussi des violences à répétition contre les policiers. Et on va voir un spécialiste des mortiers d'artifice. Parce que visiblement, il y a des mesures qui sont prises pour essayer d'encadrer ça, mais ça existe déjà. Et ça circule. Quoi.
Restez avec nous, 8h59.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Oui, vous voulez nous appeler pour le petit déjeuner de l'actualité, nous parler de votre actualité, 0826-300-300, toujours avec Alexis Poulain, toujours avec Yves de Cardrel et Elisabeth Lévy, et Patrick Roger, bien entendu. On revient sur la crise sanitaire, on revient sur la crise chez les policiers, et puis si vous voulez nous parler d'actu qui vous intéresse, vos coups de cœur et vos coups de gueule, nous sommes là aussi pour en parler.
Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a cette question aussi, l'interdiction de la vente au public des mortiers d'artifice. On en a parlé, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a évoqué aussi après l'attaque au commissariat de Champigny-sur-Marne. Alors, on est avec un spécialiste, justement, un professionnel, c'est Jean-Éric Cougier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'entreprise Fêtes et Feux, basée en région parisienne. Vous travaillez sur l'ensemble des grands spectacles pyrotechniques, les pyroconcerts, etc. Dites-nous, qu'en est-il de la loi, précisément, aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, il y a des artifices de divertissement destinés à la famille et aux particuliers qui sont effectivement en vente libre, soit par l'intermédiaire d'un magasin, soit par l'intermédiaire d'Internet. Et effectivement, c'est un marché qui s'est développé parce qu'on a besoin de joie et de fête et que les artifices ont fait de tels progrès que c'est tout à fait possible de tirer un feu d'artifice soi-même. Ouais. Voilà. Alors après, évidemment, il y a toujours des âmes malvenues qui veulent détourner ce côté festif et joyeux pour l'utiliser à des fins malheureusement négatives, et on l'a vu effectivement avec l'attaque du commissariat de Champigny.
Alors, sur Champigny, vous avez regardé les images, les vidéos, ce sont des mortiers justement d'artifice, ça, ou pas alors ?
Mais de professionnels alors, plutôt, ouais. Non ?
C'est très très délicat. Je prends vraiment beaucoup de précautions en parlant parce que j'ai regardé ça sur mon iPhone comme beaucoup de gens. Donc, il ne me semble pas que le terme à proprement parler mortier soit celui qui soit approprié, mais je crois que les auditeurs s'en fichent un peu, entre guillemets. Ouais. Le mortier, c'est véritablement quelque chose qui est plutôt réservé aux professionnels et qui sont effectivement des obus, parce qu'on utilise les termes de guerre, ça remonte au XVIIe siècle, c'est comme ça. Ouais. Ce sont des obus qui commencent, on va dire, à un calibre de 50 mm, c'est-à-dire 5 centimètres. Ouais. Ce sont des objets extrêmement dangereux et en principe qui ne sont utilisables que par des professionnels et pas achetables par un particulier. Là, je crois qu'il s'agit plutôt de chandelles. Alors, ce sont des choses qui une fois encore détournées, peuvent devenir très blessantes, en plus spectaculaires. C'est pour ça que ça fait un foin tout autour, et à juste titre, parce que c'est lamentable, et que très peu de personnes puissent détourner ainsi ce qui est destiné à la joie à des fins d'attaque et malveillantes.
Bien sûr.
Voilà, c'est tout le problème est là. J'allais dire, aujourd'hui, le ministre a réagi sans doute un peu rapidement, sans connaître réellement ce que constituent ces artifices de divertissement. On va pas, parce que 40 personnes ont un problème manifestement à régler, parce que le problème c'est pas l'artifice, c'est pourquoi ont-ils attaqué. Enfin, je crois que le problème, il est là. Aujourd'hui, on va pas arrêter de vendre des boules de pétanque, parce que j'entendais le maire de Champigny hier sur une radio concurrente dire qu'il y avait des boules de pétanque. Les boules de pétanque, c'est fait pour jouer, c'est fait pour prendre du plaisir. Ouais. C'est sûr qu'une boule de pétanque dans la tête d'un être humain, qu'il soit policier ou n'importe quoi, ça va faire beaucoup de mal, et on va pas interdire la vente des boules de pétanque.
Bon, en tout cas, ce que vous dites, c'est que c'est quand même il y a une réglementation, bien sûr pour ça, mais c'est vrai aussi qu'il y a un trafic parallèle, quoi. À la fois sur Internet et puis on a vu aussi que certains vont en acheter à l'étranger et puis reviennent avec le coffre fourni. Voilà. C'est ça aussi.
C'est exactement ça le problème. Interdire en France serait, à mon avis, contourner le problème. Ouais. Moi, je suis personnellement, mais depuis fort longtemps, j'attends pas d'avoir une attaque à Champigny, je suis pour la traçabilité de l'achat. Ouais. C'est-à-dire que, comme il s'agit de la poudre, oui, on devrait pouvoir demander aux gens qui achètent leur identité et le pourquoi ils achètent ce feu d'artifice. De façon à ce si on les retrouve quelque part dans un endroit où ils ne sont pas prévus d'être utilisés, qu'on puisse retrouver qui les a achetés, etc. Ça me paraîtrait être une décision saine et intelligente. Et voilà, vous allez acheter un feu d'artifice, on vous demande votre carte d'identité, on vous demande qui vous êtes et pourquoi vous allez l'utiliser.
Bon, Elisabeth Lévy veut réagir et poser peut-être une question.
Mais moi, j'ai eu la même réaction que monsieur, c'est-à-dire se dire c'est totalement dérisoire, parce qu'ils arriveront toujours à se procurer des choses, mais j'ai été tout de même un peu ébranlé par le fait que les policiers, eux, semblent désirer cette mesure, et il semble surtout que ce soit une question juridique, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous interdisez l'achat, la vente libre de ces dispositifs, vous pouvez, si les gens les utilisent en justice, vous utilisez des armes. Ouais. Merci Cécile. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est Cécile qui me l'a appris, en fait. Donc voilà, ça me semble pas être un argument totalement négligeable. Maintenant, si vous voulez, on espère quand même que l'État a d'autres choses à nous proposer pour rétablir son autorité que d'interdire la vente de feux d'artifice. Ça, c'est tout de même un petit peu dérisoire, parce que alors, là, on a l'impression...
Jean-Éric Ougier,
Oui, je vais vous répondre sur cet argument, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est l'argument juridique, il existe déjà, il est spécifié très clairement sur les artifices, que ce sont des artifices de divertissement, utilisables uniquement à des fins de divertissement. À partir du moment où vous détournez ce but de divertissement, vous n'êtes plus dans la loi. Donc, je comprends très bien, je serais policier, je serais ulcéré à l'heure actuelle, que des choses comme ça. Donc, c'est normal qu'ils aient évidemment l'envie, je le comprends complètement, et je suis en empathie, plein de compassion pour ces gens-là. Mais on ne va pas non plus aussi sacrifier la joie globale de 77 millions de Français, parce que 40 sauvageons, comme disait Chevènement, ont décidé d'utiliser des artifices de divertissement à des fins, on va dire, de guerre, part. Enfin, voilà. Mais l'argument juridique, c'est un détournement d'objet. C'est comme si vous prenez une voiture, je suis désolé.
Foncez
dans la foule. Il n'y a pas besoin de dire on interdit la vente des voitures pour savoir que juridiquement, une voiture n'est pas faite pour aller écraser des gens.
Alexis Poulain.
Par ailleurs, un mot, c'est que si ces jeunes voulaient entrer dans le commissariat, ce qu'ils cherchaient à faire visiblement, ils devaient aussi avoir d'autres armes, parce que qu'ils n'avaient pas l'intention de prendre le thé en regardant le feu d'artifice.
Il y avait des barres de fer, il y a beaucoup de violence, et puis surtout, là on parle de feu d'artifice, mais ce qui est inquiétant, c'est l'arsenal qui existe aujourd'hui dans les quartiers, les vraies armes qu'on a vu exhiber à Dijon, j'en parlais dans mon édito, avec un déni du politique qui dit non, mais j'ai pas vu de vraies armes, ou ce clip tourné à Grenoble où on a fait croire que c'était des fausses armes, finalement on ne sait pas, reste quand même très obscur, donc j'espère que au niveau des renseignements généraux, on est au courant de l'arsenal qui existe et des forces en présence, parce que le feu d'artifice, c'est décoratif.
Non mais c'est vrai. Vos réactions...
C'est décoratif et spectaculaire. Ils ont fabuleusement bien réussi leur coup, puisque tout le monde ne parle que de ça. Quatrième interview, c'est quand même hallucinant. Je préférerais qu'on parle de mes spectacles en temps utile,
c'est vrai.
Un appel aux médias, plutôt que d'attendre qu'il y ait ce genre de problème pour parler des feux d'artifice. C'est la joie, et ça doit le rester. On en a besoin aujourd'hui. Vous vous rendez compte je change de sujet. Et vous rendez compte que nous avons fait zéro chiffre d'affaires depuis le début de la crise du Covid. C'est pas le moment de nous empêcher encore plus. Il y a 3500 personnes qui vivent de feux d'artifice en France. Si une usine de 3500 personnes fermait aujourd'hui, vous imaginez le scandale. Nous, on est des petits artisans, entre guillemets, donc défendez-nous aussi.
Voilà. Non mais ça, vous avez raison, c'était d'ailleurs la chronique tout à l'heure d'Yves de Cadrel qui disait ces professions qui meurent en silence, hein, où on n'en parle pas, les autocaristes, les forains, les VTC, etc. Et vous, votre profession, c'est un peu la même chose, parce que là, tous les feux d'artifice ont été suspendus depuis plusieurs mois maintenant, hein, depuis le mois de mars. Quoi.
Depuis le mois de mars, nous ne faisons plus rien, et je vais peut-être encore choquer beaucoup de personnes.
Non, mais vous ne choquez pas, parlons vrai.
Mais à ça s'ajoute une tendance écologique qui, ouais, là aussi, au lieu de combattre les vrais problèmes écologiques, parce que Dieu sait s'il y en a, nous disent les feux d'artifice, c'est lamentable, ça pollue. Non, ça ne pollue pas, ça rend joyeux. Est-ce que les gens vont comprendre que les gens ont besoin de cognitifs, ont besoin de fêtes, ont besoin de se rencontrer? Quoi de plus joli, de plus beau que de émerveiller les gens de 7 à 77 ans autour d'un spectacle comme le feu?
Et là, on est tous d'accord.
Eh ben là, c'est une, c'est une note positive, vous avez raison. Enfin, positive, entre guillemets, qu'on voudrait positive. Merci en tout cas, Jean-Éric Ougier. Et on espère qu'il y aura de nouveau des feux d'artifice, justement, parce que c'est vous qui étiez le créateur du grand feu de Saint-Cloud, les feux d'artifice, les nuits de Versailles. Ça, et puis beaucoup d'autres choses dans le sud, etc. Un auditeur pour terminer cette séquence du petit déjeuner avant de recevoir Patrick Poivre d'Arvor.
Olivier est avec nous.
Bonjour Olivier.
Et bonjour Monsieur Roger, bon. Médibus.
Oui. Bonjour.
Monsieur de Cardrel et Manavi.
Oui.
Ça serait pour réagir sur tout ce qui est lié aux mineurs isolés.
Oui. Oui.
Moi j'aimerais qu'on me détaille. On dit que c'est 50 000 à 155 000 euros par mineur isolé. Je voudrais avoir le détail des dépenses par personne, c'est-à-dire qu'est-ce à quoi ça sert.
À quoi ça correspond,
ouais. À quoi ça correspond? Parce ouais. que, attendez, il y a un problème. Moi, j'ai ma femme qui est. Je suis paxée, ma femme n'est pas française, elle est sud-américaine, elle est du Chili, elle a le droit à rien.
Ouais.
Je suis auto-entrepreneur, je suis au RSA,
ouais.
Je fais partie de ces petits que dit monsieur de Cardrel. J'ai du mal à vivre de mon métier parce que le business en France, c'est une lenteur à la tortue, il faut le dire clairement. Quand je vois qu'on a des problèmes dans les hôpitaux, gouverner, c'est prévoir et c'est planifier, qu'on a un gouvernement qui continue à faire entrer des migrants qui sont pas des mineurs isolés mais qui sont des majeurs et qui viennent arnaquer l'État français, parce qu'il faut clairement le dire, ça rejoint ce qu'a détaillé Charles Pratt, le magistrat qui a été invité à plusieurs reprises en l'occurrence. Il y a des gens qui veulent s'intégrer très rapidement, comme mon épouse, elle est arrivée en 2016 du Chili, elle a appris le français plus vite que des gens là qui sont depuis 25 ans, je précise, et elle a le droit à 0 euro de la part de l'État français, juste un numéro de sécurité sociale et ça s'arrête là.
Ouais.
Moi,
parce qu'elle respecte tout, quoi.
Elle respecte
Olivier.
Tout, c'est toujours les gens les plus honnêtes qui n'ont rien. Moi, non, ça me fait vomir. Et je vais juste encore appuyer sur ce qui blesse. J'ai un foyer de migrants à côté de chez moi.
Ouais.
Je vais vous dire une chose. On va me dire, oui, monsieur, vous êtes un fou. Je vois beaucoup de migrants qui ont des derniers téléphones génération, des Nike Air à 150 euros la paire. Expliquez-moi d'où ça vient, cet argent-là. Et on leur donne tout. J'ai témoignage de personnes, par exemple, d'un chauffeur de bus qui me dit, mon épouse, elle travaille dans le social. On l'a pris. La priorité, c'est aux migrants, on leur donne tout.
Olivier, alors, Elisabeth Lévy, et puis ensuite, je vous apporterai une réponse. Oui, Elisabeth.
Voilà. Alors moi, je ne peux pas vous détailler les dépenses pour les mineurs, mais ce qui est sûr, vous mettez le doigt sur une chose, c'est le dévoiement total du droit d'asile. C'est-à-dire que ces gens entrent au titre d'une demande d'asile, alors quand ils sont mineurs ou prétendument mineurs, il leur est accordé d'office, ainsi que après un titre de séjour en France qui est ahurissant. Or, on voit bien, si vous voulez, que c'est devenu une filière d'immigration illégale normale, si je puis dire. Donc là, on a vraiment un problème, surtout si, comme moi, et comme tout le monde autour de cette table, je suppose, on est attaché au droit d'asile, c'est-à-dire à donner la protection de la loi française à des gens qui risquent des persécutions. Là, on n'est pas du tout dans ce cas. On est effectivement, et il y a vraiment un scandale du point de vue des dépenses sociales. Ça, je suis d'accord avec monsieur.
Allez, Olivier, alors, effectivement, c'est une estimation qui a été donnée par les départements de France sur sur ce 50 000 euros qui comprendrait, en fait, l'ensemble de la prise en charge. Ce que je vous propose, c'est demain matin, 9h-10, c'est-à-dire à la même heure à laquelle vous avez appelé, on vous donne la réponse en détail. On va mener en fait l'enquête pour l'avoir en détail et on vous l'apportera demain matin pour savoir. Parce que c'est vrai que ce sont des chiffres, moi aussi, qui m'ont interpellé. On a essayé d'avoir du détail, on ne l'a pas eu parce que ce sont des grandes tendances, des grands chiffres, des grands blocs qui sont donnés, mais on essaiera d'y voir plus clair demain matin. Promis, on le fera. Parlons vrai sur Sud Radio. Merci Elisabeth Lévy, Yves de Kerdrel, Alexis Poulain et vos appels et Jean-Éric Ougier. Dans un instant, on change un peu de sujet, quoique.
Parle de la Bretagne, des journalistes avec Patrick Poivre d'Arvor, journaliste. 9h18, on revient dans un instant. Ne bougez pas, la Bretagne au cœur aux éditions du Rocher. À tout de suite.